Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Conseil de défense, conseil des ministres, puis séminaire gouvernemental. L'agenda de l'exécutif est particulièrement chargé aujourd'hui, dominé évidemment par la crise sanitaire. Mais Emmanuel Macron veut déjà préparer la présidentielle. Analyse dans un instant.
Pas question de donner une date pour la réouverture des lieux culturels pour Roselyne Bachelot. Ce serait irresponsable. Zoom sur l'industrie musicale dans ce journal.
Nous nous pencherons ensuite sur la présidence de Sciences Po après la démission d'Olivier Duhamel, accusé d'inceste. Il y a peu de candidats pour lui succéder.
Aux États-Unis, les démocrates vont proposer une procédure de destitution contre Donald Trump. Il pourrait être suivi par une vingtaine de républicains. Nous irons à Washington, ville bouclée par les forces de l'ordre.
Direction enfin, Guillaume, le Chili. Les députés chiliens examinent une proposition de loi pour légaliser l'avortement. Proposition a minima toutefois. Mais d'abord un aller-retour au Liban pour débuter ce journal, car un troisième confinement se profile. Confinement strict dès demain matin 5h, interdiction pour les Libanais de sortir de chez soi toute la journée. Tout sera fermé, même les magasins d'alimentation. À Beyrouth comme ailleurs, c'est donc la ruée dans les supermarchés pour faire des provisions, Aurélien Colli.
Ambiance chaotique dans ce supermarché de Beyrouth. On fait la queue dehors car il y a trop de clients à l'intérieur. On fait la queue dedans car les caddies débordent. J'ai fait mes courses en deux temps. J'y suis allé hier et aujourd'hui, explique Youssef, qui doit aussi ravitailler sa sœur, une infirmière récemment contaminée et désormais cloîtrée chez elle. C'est de la faute du gouvernement qui ne planifie jamais, qui prend tout le monde de court. Et c'est aussi de sa faute car il n'a pas fait respecter les mesures sanitaires, accuse encore le quadragénaire, avant de partir avec une dizaine de sacs dans les mains. Moins chargé, plus âgé, mais tout aussi remonté, il y a Amal, elle en veut à ses compatriotes.
Tout le monde savait qu'on allait arriver à là.
Noël et jour de l'an célébrés comme si de rien n'était, et un virus encore trop souvent considéré comme une fatalité.
C'est la responsabilité des gens qui sont inconscients, qui croient que c'est une blague et qu'il n'y a pas de Covid. Que Dieu nous protège.
Dans 24 heures, plus de queues, plus de supermarchés. Le Liban sera à l'arrêt pour au moins 11 jours. L'aéroport de Beyrouth, le seul du pays, va rester ouvert. Mais les conditions d'entrée ont drastiquement changé. Tests PCR et isolement obligatoire à l'hôtel jusqu'au résultat, qu'on soit Libanais ou étranger.
Les Libanais confinés et la Banque mondiale qui leur vient en aide. Elle a approuvé hier soir une aide d'urgence de 246 millions de dollars sous forme de transfert d'argent ou d'accès aux services sociaux pour la population au Liban. Pas question pour le moment de reconfinement en France, mais de reconquête électorale. À 15 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron organise un séminaire gouvernemental aujourd'hui. 42 ministres et secrétaires d'État à l'Élysée pour fixer l'agenda des dernières réformes du quinquennat. L'idée est de mettre un peu de côté, l'espace d'un instant, les questions sanitaires, Stéphane Robert.
Ce séminaire gouvernemental est organisé pour permettre à Emmanuel Macron de se projeter dans la dernière année de son mandat. 2022 et la présidentielle approchent à grands pas. Il s'agit donc de mobiliser les troupes, en l'occurrence le gouvernement, de sortir de la gestion au jour le jour imposée par la crise sanitaire et de permettre au chef de l'État de remettre la main sur l'agenda afin qu'il redevienne le maître des horloges. Au cours de ce séminaire, Jean Castex va donc d'abord faire un point sur la crise sanitaire avec les ministres de la Santé et de l'Économie. Et puis il évoquera les grandes réformes à venir, la loi sur le séparatisme islamiste, la loi sur la sécurité globale, celle issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. L'examen de ces réformes est déjà programmé à l'agenda parlementaire. On évoquera la réforme des retraites, mais là, sans fixer d'agenda, cette réforme est nécessaire, mais pas prioritaire, nous dit-on. Il y aura aussi tout un volet consacré à l'égalité des chances. Il a été demandé au ministre de plancher sur la question et ils devront présenter ce qu'il est envisageable de faire en matière de logement, de formation, d'éducation, de politique de la ville. Là encore, il ne s'agit pas de prendre de décision ni de fixer d'échéance, mais de réfléchir ensemble, explique-t-on à Matignon. Toute la difficulté de l'exercice est qu'il faut préparer la candidature d'Emmanuel Macron à sa réélection et donc esquisser la sortie de crise sanitaire, mais sans trop le dire et sans trop en faire, la priorité restant aux yeux des Français la gestion de l'épidémie de Covid-19 dont on est loin d'être sorti.
Effectivement, le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 est sur un plateau haut, encore plus de 19 000 nouveaux cas recensés en 24 heures. Un état d'urgence sera a priori prolongé jusqu'en juin et le gouvernement, qui avant un conseil de défense ce matin, commence à préparer les esprits. Le calendrier vaccinal pourrait ne pas être respecté dans les mois qui viennent. Il y a des zones d'incertitude qui ne sont pas politiques mais scientifiques. Voilà ce que disait hier le ministre de la Santé. santé, Olivier Véran, auditionné par le Sénat sur cette question de la responsabilité vaccinale. Frédéric Seyss y reviendra dans son billet politique, ce sera après ce journal. C'est devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale qu'était auditionnée de son côté hier la ministre de la Culture. Roselyne Bachelot a été interrogée sur le calendrier pour rouvrir les lieux culturels en France et ça l'a visiblement agacée.
Pensez-vous que nous prenions cette décision à la légère ? Bon, non, parce qu'à un moment, on a l'impression qu'il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre et que les méchants, c'est nous. Donc là, je veux redire que c'est des décisions qui sont prises en responsabilité. Je note aussi et également que la France n'est pas seule à adopter ses positions. La fermeture des lieux culturels en Europe, elle est générale en Grande-Bretagne, elle est générale en Allemagne, elle est générale aux Pays-Bas, elle est générale en Europe. Et ensuite, nous avons la perspective du variant B.1.7 qui arrive et dont nous n'avons absolument pas évalué les impacts. Donc, j'en appelle à ceux qui veulent une réouverture immédiate des lieux culturels, je les appelle à la responsabilité. Vous me demandez une date de réouverture ferme. Je serais totalement irresponsable de vous donner une telle date aujourd'hui.
Roselyne Bachelot qui espère, malgré l'épidémie, pouvoir généraliser le pass culture pour les 18 ans dès cette année. Elle se dit aussi favorable à la reprise éventuelle des spectacles en public si tout le monde a été testé, ce qui se fait déjà pour le moment à Barcelone. Mais en attendant des jours meilleurs, comment survit l'industrie musicale en France ? Finalement pas si mal, car sans les concerts ou les festivals, la création musicale s'en trouve stimulée. Explication, exemple à l'appui avec Maïwenn Bordron.
Le label indépendant Yotanka sort normalement 8 albums par an, mais avec la crise sanitaire, les dates de sortie de ces artistes ont été décalées plusieurs fois. Il a donc fallu revoir l'activité du label, comme l'explique Vivien Guéry, le co-directeur.
On avance au jour le jour, on a tenté beaucoup de choses. On a essayé de faire des clips avec des images d'archives, on a tenté de donner de l'actualité auprès des groupes, de faire des concerts confinés, entre parenthèses, mais filmés, quoi, des captations. On y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aujourd'hui.
La situation de l'industrie musicale ne semble pas catastrophique pour le moment, selon le cabinet Wired spécialisé dans ce domaine. Vincent Béguin est l'un de ses experts comptables.
Nous, dans nos clients, on ne constate pas de dépôt de bilan. Parce que de toute façon, le marché va reprendre. Enfin, on espère tous. Pour l'instant, ils sont en stand-by en espérant que ça reparte. Donc, en attendant, les auteurs-compositeurs, ils composent, ils créent, ils préparent des choses pour l'avenir.
Avec ce temps dédié à la création pendant le confinement, l'offre s'annonce pléthorique cette année avec la sortie des albums 2020 retardés et les nouvelles sorties de 2021. Difficile pour les artistes de promouvoir leur musique dans ce contexte.
Évidemment, on va avoir un goulot d'étranglement sur les dates, sur les festivals, sur qui participe au festival. Il y a moins de place en 2021. On ne pourra pas mettre sur une année 2 ans de programmation. Les Solidays, ils durent que 3 jours. Calvi and the Rock, ça dure que 5 jours. Donc, il y aura toujours de la place pour ceux qui marchent.
Il n'existe pas encore de chiffres officiels sur la santé de l'industrie musicale. Un rapport du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, est attendu début mars.
L'industrie musicale qui s'adapte face à la crise sanitaire, c'est un dossier à lire en intégralité en une ce matin de notre site internet franceculture.fr. Il pointe notamment du doigt le risque de surproduction et de surproposition. La Fondation nationale des sciences politiques réunit aujourd'hui son conseil d'administration. Il s'agira de trouver un successeur par intérim à la tête de Sciences Po après la démission d'Olivier Duhamel. Le constitutionnaliste et politologue est accusé d'inceste par sa belle-fille Camille Kouchner, démissionnaire donc il y a quelques jours. Mais à Sciences Po, il pourrait ne pas y avoir de grands changements, Cécile de Kervas-Doué.
On a le choix entre Louis Schweitzer, le président d'honneur de Renault, ou Louis Schweitzer. C'est bien la preuve qu'il y a un problème de démocratie à Sciences Po, s'indigne le représentant de l'UNEF, le syndicat étudiant majoritaire. La bonne nouvelle, rajoute-t-il, c'est qu'il a bien cerné l'opacité qui règne dans cette fondation et semble vouloir y répondre. Avec un budget de 87 millions d'euros, la fondation est effectivement un gage de liberté pour Sciences Po par rapport aux universités. Le problème, c'est qu'elle fonctionne comme une entreprise du CAC 40, fustige l'UNEF. Sur 25 membres, 10 sont les potentiels présidents de la fondation, tous anciens professeurs de Sciences Po, tous proches des cercles du pouvoir. Pour certains observateurs, cet entre-soi expliquerait le sentiment d'immunité dont Olivier Duhamel a pu jouir. Ou bien c'est sa fonction même. Payé 3000 euros par mois, le président de la fondation a un rôle de représentation qui le propulse dans tous les réseaux. De là à y voir un système du Hamel, non, c'est plus compliqué que ça, répond une source haut placée en interne. Car Sciences Po est un terrain de jeu d'influence très fragmenté, qui doit son équilibre à sa direction bicéphale, la Fondation d'un côté et l'Institut d'études politiques de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques, Frédéric Mion, ne veut pas démissionner, comme le demande la majorité des syndicats étudiants, qui lui reprochent d'avoir passé sous silence ce qu'il savait de l'affaire du Hamel. « C'est moi ou le chaos ?» leur répond-il. Il se souvient de la tempête causée par la disparition brutale de son prédécesseur, Richard Descoings. Devant la vacance du pouvoir, Sciences Po avait alors été placé sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, perdant du même coup sa réputation et sa liberté.
C'était Cécile de Kervas-Doué. Quelques mots encore après les accusations d'inceste contre le désormais ancien président de Sciences Po. Notons que le philosophe Alain Finkielkraut s'est positionné avant-hier contre un lynchage généralisé d'Olivier Duhamel, questionnant sur LCI le consentement de l'adolescent victime présumée. Le chroniqueur a été congédié par la chaîne de télévision hier soir.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les démocrates vont proposer aujourd'hui d'écarter Donald Trump du pouvoir.
Oui, cela va passer par une procédure de destitution, procès engagé devant le Congrès, car le vice-président Mike Pence a refusé cette nuit d'enclencher le 25e amendement. Procédure d'impeachment donc, qui pourrait être acceptée par certains républicains au Sénat. Une vingtaine de sénateurs, en tout cas, des républicains, pourraient voter pour cette procédure. Il en faut 17 pour faire basculer le Congrès. Ces négociations se déroulent toujours à Washington, ville par ailleurs bouclée par les forces de l'ordre. À 7 jours de l'investiture de Joe Biden, la garde nationale est même armée pour éviter de nouvelles violences. Étrange ambiance que nous décrit notre envoyé spécial Franck Madvon.
Pas de bruit de moteur ou de klaxon. Les larges avenues du centre de Washington, près de l'immense esplanade du Mall en face du Capitole, sont totalement désertes.
Ça fait 40 ans que je vis ici.
Rick est sorti brièvement de l'immeuble où il travaille.
Et c'est la première fois que je vois ça. Vous voyez, il n'y a personne. C'est une ville réservée aux bus. Normalement, il y a plein de gens, du trafic, mais là, ce n'est pas le cas. On se prépare à de possibles nouvelles violences.
Policiers et militaires sillonnent les rues. Ils ont été déployés bien plus tôt que lors des précédentes investitures. Leona est l'une des rares piétonnes dans cette zone bouclée.
Je n'ai jamais pensé que je le verrais. It's absolutely crazy.
Je ne pensais pas que je verrais ça un jour, c'est totalement dingue. Je me fais discrète, j'évite les foules, tout peut arriver. Je ne pensais pas qu'on démarrerait 2021 par des événements aussi graves. Je suis vraiment attristée par la situation politique américaine.
L'état d'urgence est décrété à Washington jusqu'au 24 janvier. Depuis l'élection, des planches de bois protègent la plupart des vitrines, comme celle de cette bijouterie tenue par Sam.
J'ai peur de la situation dans son ensemble. Disons que je suis prudent, c'est bien d'avoir pris des mesures de sécurité. Il faut que les forces de l'ordre montrent qu'elles sont présentes pour dissuader les gens de semer le désordre. C'est un mal nécessaire, il faut le faire.
La maire de la ville a demandé aux Américains de ne pas se rendre à Washington pour l'investiture, dont l'accès est de toute façon limité cette année en raison de la pandémie.
Une pandémie de Covid-19 qui a fait, et c'est un triste record, plus de 4500 morts rien qu'hier aux États-Unis. Les États-Unis où une femme a été exécutée cette nuit dans l'Indiana sur décision de l'administration Trump. Emprisonnée pour un meurtre il y a 16 ans, elle est la première femme exécutée outre-Atlantique depuis 1953. Le Chili prendra-t-il exemple sur l'Argentine pour légaliser l'IVG ? Un mois après leurs voisins argentins, les députés chiliens examinent aujourd'hui une proposition de loi en ce sens. Il y a déjà eu quelques avancées ces dernières années, mais l'avortement n'est autorisé au Chili qu'en cas de risque pour la vie de la femme enceinte, en cas de viol ou si le fœtus n'est pas viable, Justine Fontaine.
Avant 2017, l'avortement était complètement interdit au Chili. Et aujourd'hui, face à une loi encore très restrictive, seuls 800 avortements ont lieu légalement chaque année dans ce pays de 19 millions d'habitants. En parallèle, les avortements clandestins se poursuivent, plusieurs dizaines de milliers chaque année d'après les estimations des ONG, au risque de graves complications. C'est notamment pour cette raison que l'association Humanas a rédigé une proposition de loi pour dépénaliser l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse. Camila Maturana, avocate de l'association, est l'une des autrices du texte examiné par les députés à partir d'aujourd'hui. Si une femme ou une fille est suspectée d'avoir avorté, dit-elle, l'hôpital appelle les carabiniers et elle est interrogée tout de suite, avant même la fin des soins médicaux. Le but de cette proposition de loi, c'est de nous demander si dans notre société, nous souhaitons continuer d'imposer la prison aux femmes et filles qui décident d'interrompre une grossesse. grossesse, explique-t-elle. Une proposition moins ambitieuse donc qu'en Argentine, où l'accès à l'IVG est désormais un droit garanti par la loi. Les féministes chiliennes espèrent ainsi qu'il sera moins difficile de convaincre la classe politique de leur pays, très conservatrice, et elles comptent sur la future Assemblée constituante, qui sera élue en avril, pour mieux garantir les droits des femmes dans la nouvelle constitution du Chili.
C'était Justine Fontaine depuis Santiago pour France Culture. Le temps ce mercredi en France métropolitaine sera généralement pluvieux. Neigeux sur les Alpes où le risque d'avalanche est élevé ce matin. Temps ensoleillé près de la Méditerranée et puis sur la Bretagne. Ce matin, il fait 2 degrés à Strasbourg et à Lille, 6 à Paris, 9 degrés à Rennes et Bayonne et 12 degrés à Perpignan.
Merci Clara Lecoq-Réal. Il est 8h15. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez nos camarades Hervé Gardette pour sa transition, Géraldine Mosna-Savoie pour son carnet de philosophie, et puis Arnaud Laporte qui donnera la parole à un artiste. Dans quelques instants, nous retrouvons notre invité, le grand économiste Robert Boyer, qui va nous donner son point de vue sur la crise économique liée à la pandémie. Il publie Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie aux éditions de la Découverte. Et puis un billet politique avec vous, Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Il est question de responsabilité dans les failles de la campagne de vaccination.
Oui, est-ce la faute de ceux qui donnent les ordres ou de ceux qui les mettent en œuvre ? La question s'accentue ces dernières heures.